Voilà. Il y a quand même une leçon pour les enfants. C'est bien d'avoir les enfants auxquels on peut faire une leçon. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, on poursuit cette progression lente et régulière à travers le livre. Et nécessaire, oui. Jérémie chapitre 7, le prophète qui pleure, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ce soir, il prêche un message à la porte du temple. Du moins, c'est ce qu'on va regarder ce soir. Donc, Jérémie, vous l'imaginez à la porte du temple. Parce qu'au temple, il y avait plusieurs parvis. Il y a un parvis pour les hommes juifs. Il y avait le parvis pour les femmes juives. Puis il y avait un parvis pour les non-juifs. Le parvis des païens. Et c'est précisément dans ce parvis des païens, du temps de Jésus, qu'ils avaient mis leur marché. Et pourquoi? Parce que pour les juifs, ils disaient de toute façon, les païens, comme ce n'est pas les juifs... Ils n'ont pas besoin d'un parvis pour prier, de toute façon, c'est à peine si Dieu va les écouter. Nous, oui, on a besoin d'un bœuf, ils n'ont pas besoin. On va mettre le marché au bétail, là, et changeur de monnaie. C'est pour ça que Jésus, quand il a chassé les vendeurs du temple, il a chassé de ce coin-là, en disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Donc, il chassait des gens de lieux de prière où tous les peuples devaient pouvoir prier l'Éternel dans ce parvis. Donc, Jérémie était là, une des portes du temple. Le temple lui-même avait une porte, mais les parvis en avaient plusieurs. Sans doute, il était là où il pouvait vraiment s'adresser à ces juifs qui venaient. Et vous savez, ça fait mal au cœur. On voit un local comme celui-ci, il est fermé toute la semaine. Faute de quelqu'un qui peut venir faire une permanence. Mais vous allez à Notre-Dame de Paris, mais c'est ouvert du matin au soir, 7 jours par semaine, les gens défilent, entrent, sortent, il y a de la vie. Il y a du, ben, pas de la vie spirituelle, mais il y a de la vie humaine qui circule dans le bâtiment. Et là, il y avait des sacrifices, il y avait des chorales, il y avait des orchestres, il y avait des prières, c'était très animé. Donc le centre social, c'était le temple. Et là, il était sûr de pouvoir retrouver son auditoire. Et donc, on pense que peut-être il était à la porte par laquelle entrent les adorateurs, donc les unes allaient dans la cour des femmes, et puis il y avait la cour des gentils, et la cour extérieure, un message en plein air, et les gens qui venaient par cette porte, quelle que soit la cour dans laquelle ils iraient, ils allaient passer devant Jérémie et entendre son message. Alors si on regarde Jérémie 26, on anticipe un peu, on voit à quel moment il a prêché ce message. En Jérémie 26, regardez verset 2, donc il dit, verset 1, au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots, ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. Peut-être t'écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors, je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Et donc, Dieu donne quand même une lueur d'espoir à Jérémie. Peut-être se repentiront-ils. Dieu savait quand même, alors ça, ça nous pose une question. Il savait quand même ce que la majorité des gens allaient faire. Mais il laisse toujours la porte ouverte pour la repentance. Il ne les enferme pas dans la vie. De toute façon, vous n'avez pas cru, voilà. Non. Non, peut-être, à la dernière seconde, se repentiront-ils. C'est formidable. Quelle patience. Dieu a parfois plus de confiance dans les hommes que nous n'en avons. Non pas en nous, il sait de quoi nous sommes faits, mais je veux dire, il ne cesse jamais d'espérer la conversion du pécheur. Et donc, peu de temps après la mort de Josias, Donc, du temps de Josias, on marchait droit. C'est un roi qui avait amené un réveil spirituel. Mais dès sa mort, et son fils n'était pas du tout dans la lignée de son père, lui repart vers l'idolâtrie, et tout le peuple repart dans l'idolâtrie, et met le pratique ensemble avec l'adoration de l'Éternel. Après avoir donné le message qu'il donne là au chapitre 7, le peuple de Juda l'a menacé de mort. Carrément. On peut dire que ça n'a pas plu. Mais les chefs de Juda, c'était peut-être des gens qui avaient été avec Josias, qui se souvenaient de Josias, qui avaient un peu de piété encore, eux, ils ont délivré Jérémie de cette menace. Dans les versets 2 à 7, donc, Jérémie va les appeler à la repentance. Alors, Dieu dit, verset 2, « Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Mais ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. C'est quand même clair. Vous avez vu cette mantra qu'ils avaient, le temple de l'Éternel. Amen. C'était comme une formule magique. Nous avons au temple de l'Éternel, rien ne peut nous arriver. Alors, Dieu dit oui, j'aimerais voir un changement de conduite. J'aimerais voir une repentance, mais que cette repentance soit visible. Pas simplement nous avons l'Éternel, et puis on va à côté à l'idole et on a l'idole aussi. Ça ne le fait pas. Il dit, je veux voir des changements. Alors c'est intéressant parce que Dieu avait donné des lois pour Israël en tant que peuple et en tant que société. Et vous souvenez-vous de toutes les faveurs, en fait, toutes les lois en faveur des pauvres. Pour que les gens ne restent pas pauvres, ou que les pauvres ne meurent pas de faim, qu'on s'occupe des pauvres. Et Dieu a toujours eu à cœur les pauvres. Alors il dit, si vous faites justice envers les pauvres et les désirs irrités, au lieu de les écraser, si vous les aidez, si dans votre justice, vous rendez des procès justes, vous acquittez l'innocent et vous condamnez le coupable, parfois c'est qui est-ce qui a davantage d'argent, qui les tort, qui les raison, c'est lui qui gagne. Ça, Dieu déteste ça. Que le coupable soit puni, que l'innocent soit acquitté. Et si vous pratiquez la justice spirituelle en renonçant à toute votre idolâtrie. Mais Dieu avertit le peuple, et on le voit bien dans le verset 4. Il dit attention, est-ce que vous croyez que vous pourrez faire n'importe quoi et échapper au jugement rien que parce que vous pensez que Dieu ne permettra pas que son temple soit détruit? Parce qu'il se souvenait de la prière de Salomon. Dieu a dit, je prendrai ce lieu et j'y placerai toujours mes yeux et mon cœur. Ils ont pris ça littéralement. Puisque c'est le joujou de Dieu, puisque c'est le lieu que Dieu a choisi, il ne permettra jamais que ce lieu soit détruit. Parce qu'il dit, il sera toujours, les yeux et son cœur seront ici. Donc, tant qu'on est dans le temple, on est sain et sauf, il ne permettra jamais que le temple soit détruit. Mais Jésus n'était pas attaché au bâtiment. D'ailleurs, quand David voulait lui bâtir un bâtiment, il lui dit, est-ce que je t'avais jamais demandé de me construire un édifice? J'étais 400 et 500 ans sous la tente, là, de Sabéra. Est-ce que je me suis jamais plaint? Non, j'ai pas besoin. Et Paul va dire, Dieu n'habite pas des maisons faites de main d'homme. Donc, Jérémie leur dit, ne vous abusez pas là. Le fait que vous soyez dans le temple de l'Éternel, si vous n'y adorez pas l'Éternel, Dieu ne tient pas plus que ça à cette maison. Ce qu'il veut, c'est votre cœur. Depuis toujours, il veut votre cœur. Et ça, c'est pour les gens qui font lieu de fétichisme. Une église devient, oh, l'église, c'est... Non, je crois qu'il faut avoir un bon comportement dans les locaux de l'église. Mais ce n'est pas les locaux qui vont rendre les gens saints. Ce n'est pas les locaux qui vont les protéger. D'ailleurs, à Béziers, on a eu, quelque chose de terrible. À l'époque des croisés, quand Simon de Montfort est venu, depuis toujours, une église était un lieu de refuge. On ne s'attaquait pas à un édifice religieux, surtout pas à une église catholique. Simon de Montfort était catholique. Et les Biterrois sont entrés dans leur église en disant, au moins là, il ne touchera pas, on est dans un lieu de refuge. Et bien Simon de Montfort a fait brûler l'église, et aux soldats qui avaient quelques gênes à le faire, du haut de brûler tous, Dieu reconnaîtra les siens. Et 10 000 personnes sont été brûlées.
Comment ça, il a envoyé une missive au pape.
Oui, et le pape lui a dit, tu pouvais. Absolument, c'est le pape qui a. Ou un évêque. En tous les cas, l'évêque de Rome, ou je ne sais pas. Bon, et là, les gars, on va. Mais c'est bien, c'est très bien. Nous ne discutons pas là-dessus. Toujours est-il que cet épisode, comme l'épisode du temple, c'est exactement la même idée. Ce bâtiment est la maison de Dieu, rien ne peut nous arriver. Et Jérémie dit, ne vous abusez pas. Vous ne pouvez pas continuer à pécher et avoir la faveur de Dieu. Alors Dieu condamne leur présomption. Donc d'abord, il les appelle à la repentance, versets 2 à 7. Ensuite, il condamne une attitude de présomption. Alors, verset 8. Voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi ? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. C'est de là que Jésus tire le verset. C'est une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. C'était le même genre de choses. Eux, ils avaient l'idolâtrie et puis les Juifs, ils avaient le marché et gagner de l'argent au temple. C'est une entreprise commerciale, une caverne de voleurs. Verset 12. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo, et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute ma postérité d'Éphraïm. Donc Dieu donne deux raisons, il dit attention, parce que deux choses. Premièrement, dans le temps, avant que le temple soit ici, du temps de Samuel et Élie, le sacrificateur, on adorait l'Éternel à Silo. Et là, c'était la débandade, et Dieu a fait complètement détruire le site de Silo. Dieu dit, je l'ai fait une fois, je peux recommencer. Et la deuxième chose, c'est que il y a l'autre partie de votre peuple, les 10 tribus du Nord, ils étaient tout autant, ils sont tout autant israélites que vous. C'est les 10 tribus qui étaient les mêmes fils de Jacob que vous autres, des gens de Juda, de Benjamin et de Lévi. Et regarde, ils sont partis à la Syrie en captivité. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez faire la même chose qu'ils ont fait sans subir la même punition qu'ils ont subie à cause d'une histoire de maison? On voit à quel point Dieu est regarde le cœur, pas les constructions. Alors verset 16 nous choque un peu, mais Dieu dit le jugement est certain. Verset 16 à 20. Et il dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. C'est rare que Dieu m'a demandé à ses enfants d'arrêter de prier pour quelqu'un. Mais ça arrive ici. Ce peuple s'était montré tellement endurci. Il dit, Jérémie, ne perds pas ton temps à prier, parce que c'est résolu. je vais, ils vont passer par le jugement. Dieu dit, regarde, leur cœur est dur. Dieu a souvent appelé Judas vers lui, et Judas a toujours refusé de se repentir et durcissait son propre cœur. C'est ce qu'a fait Pharaon. Moïse est venu, il a dit ainsi par l'Éternel. 6 plaies plus tard, Pharaon avait endurci son cœur pour la dernière fois. 7e à la 10e plaie, c'est Dieu qui lui a endurci le cœur. Mais Dieu n'endurcit pas les cœurs des gens arbitrairement. Les gens endurcissent leur propre cœur. Et si Dieu voit qu'il n'y aura pas de repentance, Dieu parfois va endurcir leur cœur, c'est-à-dire, il ne fait que se conformer à ce qu'eux ont déjà décidé, et puis en les brisant et en les punissant, Dieu se dit, en punissant ce pharaon, je vais faire connaître mon nom aux autres nations. Lui ne veut pas se convertir, et bien peut-être à travers sa ruine et son jugement, d'autres prendront peur et se convertiront. La Bible dit, punis le moqueur et le sot devient, ou le simple devient sage. C'est les gens qui, oh, Dieu, je ne sais pas si Dieu existe. Puis quand on voit quelqu'un, les malheurs tombent sur lui et puis on voit que c'est Dieu qui le fait, il dit, ouh, je vois ce qu'il fait, il blasphème Dieu et puis Dieu lui tape dessus, Dieu existe, peut-être j'ai intérêt à me changer la vie, je sais qu'il existe et je vais lui faire face et puis il faut que je sois prêt, ça peut conduire à la conversion de cette personne. Donc Dieu néglige aucun moyen pour essayer d'amener les gens à lui-même. Donc, quand Dieu décide de son jugement et qu'ils gardent leur cœur endurci, parce qu'ils l'ont endurci déjà eux-mêmes, ce n'est plus la peine d'intercéder. Il dit aussi le jugement, c'est parce qu'il y a une unanimité dans l'idolâtrie. Toute la famille est impliquée dans la pratique de l'idolâtrie. Tout le monde était atteint. Il dit verset 18, les enfants amassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du miel, pour faire des libations à la reine du ciel. Merci. Oui. Dans l'absus, j'ai pas faim. Hein. À la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Oui, toute la famille se mettait à adorer les idoles. Dieu avait même dit, Sodome, je lui permettrai de continuer indéfiniment si on trouve 10 justes. Et Abraham s'est arrêté à 10. S'il avait tenté 5, Dieu aurait peut-être dit oui aussi. Il a trouvé un seul, Lot. Donc c'était, le peuple entier était dans l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'était ces gâteaux pour la reine du ciel? C'était des gâteaux au miel. C'est là que vient le problème. Et à la farine fine, elles étaient rondes. Ils étaient ronds ces gâteaux et ça symbolisait la lune. La pleine lune. Et on les offrait ces gâteaux en adoration à la lune. On adorait la lune comme la reine du ciel. Le soleil, c'est le roi du jour. La lune, elle est plus douce, la reine du ciel. Les Phéniciens appelaient la lune Astarté. C'est aussi l'un des noms de la déesse de la fertilité. Alors, Astarté était la femme de Baal, ou la femme de Moloch, le roi du ciel. Donc, ce couple de divinités, Moloch et Astarté, ou Baal et Astarté, symbolisait les pouvoirs de procréation de la nature. Et par conséquent, la prostitution devenait une partie du culte. Donc vous imaginez le temple de l'Éternel qui sert à un culte idolâtre avec ce qu'on appelle la prostitution sacrée, religieuse. Ça faisait partie du culte. Et notre jour, lundi, signifie le jour de la lune, indiquant qu'on a adoré la lune dans le passé. Alors, une partie de ces idées ont été reprises par le catholicisme. Et la lune, Astarté, la mère et l'enfant, qui sont dans toutes les mythologies du monde, on a nommé Marie la mère de Dieu et la reine des cieux. Donc la lune. Avec une auréole, ce qui peut symboliser une couronne d'étoiles, de planètes autour. C'est très, c'est pas quelque chose qui s'est arrêté 600 ans avant Jésus-Christ. Ça a perduré pendant tout le Moyen-Âge, à travers toutes les civilisations, on trouve cette même idée. Dans le verset 19, il dit, voilà leur attitude dans l'idolâtrie. Dieu dit qu'ils le font exprès pour provoquer le Seigneur à l'irritation, pour le rendre jaloux. Vous savez, quand quelqu'un fait une bêtise, mais il ne le fait pas exprès, on lui pardonne. Mais quand quelqu'un vous regarde, vous avez donné une interdiction, les enfants font ça. Ils vous regardent comme ça, et puis ils vont doucement vers là, on dit qu'il fallait pas aller, touche pas ça, puis ils étendent la main qui vous regarde. Oh, ils sont très forts. Et après, ils tendent la main une autre fois, et ils vont le faire jusqu'à ce que vous soyez une punition, généralement. Ils veulent savoir si c'est vraiment interdit ou pas. Très souvent, les parents, ils, la quatrième fois, ils font autre chose. Quelqu'un sort de la porte, il s'installe, et le gosse, il fait son truc, et puis, il fait un peu de bruit pour voir, pour montrer à ses parents, tiens, je fais ce que tu m'as interdit. Puis si les parents ne réagissent pas, lui est désorienté. Pourquoi l'interdit, puisqu'on me permet de le faire, la maman, hein? Et donc Dieu, il dit, oui, vous le faites pour me provoquer, mais ça me provoque. Vous le faites pour voir si vous jugez. Je vais vous juger. Et si Dieu ne les jugeait pas, ça n'aurait pas été pour leur rendre service. Ça aurait été terrible. Dieu, il allait juger la nature et les hommes et les animaux parce qu'il les avait créés pour l'homme. Alors, quelles sont les raisons de ce jugement ? Eh bien, verset 21, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. » Ça, c'est curieux. Quand vous lisez le Lévitique, on ne devait pas manger les holocaustes. C'était d'être brûlé entièrement et c'était uniquement pour l'Éternel. Et là, Dieu leur dit, mais mangez vos holocaustes et vos autres. Allez-y, vous mangez vos autres sacrifices, mangez vos holocaustes aussi. Mais c'est ironique, c'est du sarcasme. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que, de toute façon, on n'avait qu'à faire un méchoui, on n'avait qu'à faire des grillades, parce que vos sacrifices, je n'en veux pas. Vous n'avez qu'à les manger, moi je n'en veux pas. Parce que je sais où est votre cœur. Parce que le sacrifice de l'Holocauste, c'était pour rétablir la communion avec moi. Or, quand vous continuez allègrement dans votre péché, ce n'est pas la peine de jouer la communion à l'enfant en sacrifice, dont la signification c'est « Je me consacre à toi seul, Seigneur », puis c'est évident quand vous ne vous consacrez pas à moi. Vous n'avez qu'à les manger. Moi, je n'en veux pas de vos sacrifices. On sent un Dieu qui est excédé par l'hypocrisie. Versets 22 et 23, il dit, car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai point donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Qu'est-ce que Dieu leur dit ici? Il dit, vous dites, oh, mais nous, on obéit aux lois de l'Éternel. On suit les lois de l'Éternel. Il a dit qu'il fallait donner un sacrifice, on donne un sacrifice. Où est le problème? Dieu dit, est-ce que j'ai attendu que vous me donniez des sacrifices pour vous sortir de l'Égypte? Vous ne m'avez jamais donné de sacrifice. Je ne les avais même pas inventés quand je vous ai fait sortir de l'Égypte. Pourquoi je vous ai fait sortir de l'Égypte, il dit? Pas parce que vous faisiez de bons sacrifices. Je l'ai fait parce que je vous aimais. Je l'ai fait parce que vous avez demandé de me le faire. Vous avez crié vers moi. Vous avez dit, Seigneur, on est désespéré. Sors-nous de là, on est esclaves. Seigneur, on a besoin de toi. J'avais compassion de vous. Je vous aimais. J'avais pitié de vous. C'est pour ça que je vous ai sorti d'Égypte. Parce que vous m'aimiez. Vous aviez besoin de moi. Je vous aimais. Je vous ai fait sortir. Et après, vous avez dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour plaire à Dieu? Ben, j'ai dit, Faites des sacrifices et moi je vous donne des lois, mais je vous les ai données parce que vous vouliez les connaître. Je ne les ai pas données pour que vous les observiez bêtement. Ça ne m'intéresse pas que vous les observiez bêtement. Ce qui m'intéresse, c'est de retrouver l'attitude que vous aviez au départ. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis esclave du péché. Sors-moi de moi, je t'en prie. Ça, c'est le genre de prière que tu aimes. Et n'est pas le genre de prière. Seigneur, j'ai du culte dimanche matin, quand même. Je crois que tu peux quand même voir que je suis quand même un très bon chrétien par rapport à celui qui n'était pas là. Et puis le mardi soir, je me fais encore l'étude biblique. Puis elle n'est pas courte. Hein. Alors, je crois quand même, Dieu, que tu vois que, hein, par rapport à certains autres, Dieu dit, mais ça ne m'intéresse pas, cette attitude-là. Dans un concours, vous avez complètement changé votre attitude. Il dit oui, vous faites des sacrifices, mais sans repentance. Vous êtes indifférent, vous êtes obéissant, oui, mais vous obéissez genre. Bon, ah, faire, hein, c'est le cœur. Qui est-ce qui vous a dit ça? Ah, mais c'est le cœur, même qui l'a dit, bon, il faut le faire, quoi. Ben, c'est comme ça, hein. On est le peuple de l'Éternel. Quand vous avez un enfant, vous êtes un papa. Et si Sabine dit à sa sœur, mais tu dois faire ça, et pourquoi? Mais parce que papa a dit, tu sais. Pff, ouais, tu sais, bon, et l'autre fait pff, aussi pour imiter la grande sœur. Et non, mais là, il va faire parce que papa l'a dit. Et si papa, il entend ça, il dit, oh, attends, les filles, ça va pas. Parce qu'ils vont dire, ben voilà, on a fait ce que tu as dit, j'espère que tu es content. Il va dire, c'est pas du tout l'attitude que je recherche dans cette famille. Ce genre d'obéissance ne m'intéresse pas, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pareil avec Dieu. Donc Dieu s'adresse à Jérémie, il ne s'adresse plus au peuple, versets 27 et 28, où il leur dit, si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors, dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Dieu dit, bon, pour finir ton message, Jérémie, va leur dire. C'est ici la maison, la nation qui n'écoute pas son Dieu, comme ça va mauvais. C'est ici une nation de gens rebelles qui ont un cœur endurci. Tu parles à qui, Jérémie? Je ne sais pas à qui je parle, je ne vous parle pas à vous puisque vous ne m'écoutez pas. Je vous ai parlé depuis des jours, vous vous moquez de moi, je parle aux oiseaux, je parle au Seigneur, je parle aux païens qui passent par là. Je veux dire que vous et moi des gens qui sont hypocrites, qui n'écoutent pas leur propre Dieu, voilà tout le monde, ils sont là, dans leur famille du temple de l'Éternel. Mais ils se moquent de l'Éternel, tout en amont du cœur des sacrifices. Mais est-ce que vous avez jamais vu une seule chose? Pourquoi les font-ils? Si c'est pour se moquer de Dieu. C'est ici la nation, la nation. Dieu ne parle jamais à son peuple comme d'une nation. Il disait mon peuple. Mais là, c'est une nation comme une autre fois. On est un assemblage d'individus. Mais franchement, ils sont tellement indifférents envers moi, je n'y vois pas mon peuple. Quand un parent dit ça, voilà les enfants, ça, c'est les enfants qui n'écoutent pas leur père. Les enfants disent, je parle de qui, papa? Mais je parle de vous. Mais pourquoi tu dis pas, pourquoi tu dis, c'est des enfants, pourquoi tu dis pas, c'est mes enfants? Le père va dire, c'est des enfants, parce que vous ne vous comportez pas comme mes enfants. Je vous aime mes enfants, mais vous ne vous comportez pas comme mes enfants. Je pourrais aussi bien parler des enfants du voisin. Ils m'écoutent autant que vous. Hein, c'est un peu envoyer un peu dans leurs dents, un petit peu, ce qu'ils sont. Et comment Dieu ressent cela? Comprends que Dieu est tout sauf, il est tout sauf détaché, hein. Il est tout sauf neutre. Il souffre ici. Alors dans les versets 29 à 34, la cinquième partie, Dieu prédit le désespoir du peuple jugé. Il dit, coupe ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs et prononce une complainte, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Dieu ont fait ce qui est mal à mes yeux de l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Jérémie prend l'image d'une femme. Une femme qui est en deuil, qui perd ses enfants, se raser la tête et pleurer ses enfants morts. Il dit, c'est ce que vous allez faire. Parce que quand Dieu va vous juger, vos enfants vont mourir et vous allez vous raser la tête et pleurer vos enfants qui sont morts. Mais vos enfants seront morts par votre faute. Le peuple faisait des abominations dans le temple. Le peuple faisait passer ses enfants dans le feu pour honorer Moloch qui aimait le sang des enfants. C'est ce qu'il dit. Verset 31, ils ont bâti des hauts lieux à Tophet dans la vallée de Ben-Hinnom pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Je dis, mais j'aurais jamais imaginé que des gens puissent brûler leurs enfants pour honorer leur Dieu. Mais c'est quoi cette folie? C'est vrai, c'est complètement... Il dit, mais vous faites, parce que Moloch, le dieu des Moabites, il avait le sang des enfants. Enfin, ça faisait partie du culte. Donc, on faisait passer ses enfants dans le feu, et on les brûlait pour honorer Moloch. Il dit, mais c'est quoi? C'est inimaginable. Et donc, il dit, verset 32, c'est pourquoi voici les jours viennent, il est un, où on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben-Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Il dit oui, dans l'endroit même où vous faites passer vos enfants par le feu, pour honorer Moloch, c'est dans ce même lieu que les Chaldéens vont vous tuer et vous assassiner, vous massacrer. Pour vous punir. Vous avez tué vos enfants, des ennemis vont venir vous faire mourir. Ça sera le jugement que vous aurez. Et donc, il dit, verset 34, je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. Dieu dit, plus personne ne va fêter les événements normaux de la vie, comme le mariage. Dans ce coin. Le pays sera laissé vide et désert, et Juda sera parti en captivité, et quelques-uns qui ne sont pas tués sur place. Pouvez-vous imaginer la ville de Saint-Gaudens si la plaie passait par ici et tuait 9 personnes sur 10? Vous auriez 9 magasins sur 10 fermés? Vous auriez 9 maisons sur 10 vides et vous aurez quelques rescapés, quelques voitures. Le jeudi matin pour le marché, vous auriez 4 ou 5 marchands, 10 ou 20 acheteurs. Toute la ville aussi grande qu'elle est et 90% des habitants de Paris. Là, c'était pire. La ville de Jérusalem a été entièrement rasée. Et les gens sont partis. Il y avait des champs, des vignes, des villages, fantômes. Il y avait encore les constructions, mais il n'y avait plus personne qui habitait là. C'est tous partis en Babylone, en captivité. Dieu dit, voilà, je vais vous vider de votre pays à cause de votre abomination. Quel message terrible. Nous ne pouvons pas nous confier dans un lien. On ne peut pas se confier dans un programme, ni dans les pratiques religieuses. Tout ça, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. De dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est la plus belle prière, c'est le plus beau chant qu'on puisse lui faire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne veux pas faire des sacrifices ou des choses parce que ça se fait comme ça. Donc je veux rien faire par contrainte. Je veux le faire parce que je t'aime, parce que tu le mérites. Je veux pas me confier dans ce que je fais pour toi, mais je me confie dans ce que tu as fait pour moi, ce que tu fais pour moi. parlons moins, enfin, on n'en parle pas tellement dans cette église, mais les églises où des gens, oh, vous savez à quel point j'aime Dieu, oh, si je pouvais vous expliquer l'amour que j'ai pour Dieu. Ah bon? Moi, je trouve plutôt, si je pouvais vous expliquer l'amour que Dieu a pour nous, ah, ça, c'est autre chose. Mais ne nous vantons pas trop de notre grande spiritualité. Comme ces gens-là, moins ils étaient spirituels, plus ils s'en vantaient. Mais Dieu, il connaissait ce qu'il était, et puis ça le dégoûtait. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants, et nous te remercions pour le témoignage fidèle de Jérémie, combien tu étais droit avec ces gens-là. Combien Jérémie leur a dit la vérité en face. Oh, ça ne devait pas être plaisant à entendre. Surtout pour les gens qui étaient tellement habitués à l'hypocrisie, à la suffisance. Ils se prenaient vraiment pour des gens au-dessus de tous les autres. Des gens auxquels rien ne pouvait arriver. Oh Seigneur, parfois, enfin, ça peut nous arriver. Pourrait dire aussi, mais j'ai la sainte doctrine, j'aime Dieu, je suis fidèle, rien ne peut m'arriver. Puis de toute façon, Dieu me doit de me protéger. Je suis un chrétien tellement bon, et comment se ferait-il sans moi? Oh Seigneur, préserve-nous de telles attitudes. Et puis permets-nous d'être humbles, simples, joyeux, dans l'obéissance. Et puis surtout, nous rendre compte que c'est un grand privilège rien que de te connaître, de te servir, de t'aimer, de t'adorer. Et quand on vit pour toi, on ne fait pas de sacrifice. Ce qu'on fait pour toi n'est rien à côté de ce que tu as fait pour nous. C'est des privilèges que nous avons. Et merci de nous aider à nous en souvenir. Par Jésus-Christ. Amen. Amen.